Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au chapitre 11. C'est une histoire que beaucoup connaissent. Jean 11. À partir du verset 20. Jean 11, verset 20, nous lisons. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement, et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Voilà l'histoire d'un proche de Jésus qui s'appelle Lazare. On vient appeler Jésus, on lui dit, viens maître rapidement parce que ton ami, celui que tu aimes, est malade et il est mourant. Et nous n'avons pas lu, c'est au début, Jésus reste plus longtemps que prévu. Et lorsqu'il est à ce moment, il sait qu'en réalité, Lazare est déjà mort. Et il va se rendre à l'endroit. Nous voyons Marthe qui arrive pour voir le Seigneur pour dire, « Mais Seigneur, si tu étais présent, les choses auraient été différentes. Mais Seigneur, si tu étais venu avant, les choses ne seraient pas ainsi. Pourquoi tu es resté plus longtemps? Pourquoi tu n'es pas venu avant? Pourquoi tu n'as pas agi ?» Le thème de notre exhortation ce matin, c'est comment réagissons-nous face à l'adversité? Comment réagissons-nous devant les épreuves? Nous allons voir qu'il y a deux attitudes possibles. La première attitude, c'est l'attitude du pourquoi. Seigneur, pourquoi? Alors, est-ce que c'est mauvais de demander à Dieu pourquoi? Ce n'est pas mauvais. On peut prier, crier à Dieu, dire Seigneur, pourquoi cela? Seigneur, pourquoi tu permets cette situation? Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Seigneur! Mais dans l'attitude du pourquoi, il y a un danger. C'est lequel? C'est que quand on demande pourquoi à Dieu, que ça dure longtemps, c'est comme si on demande de compte à Dieu. On dit pourquoi tu as fait les choses comme ça? Le pourquoi nous met dans une position de rivalité avec Dieu. On rivalise. On dit Seigneur, mais tu savais que ça allait arriver. Mais pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu permets tant de souffrances? Seigneur, mais je prie, mais pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, j'ai jeûné, Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Et c'était l'attitude de Marthe et Marie, qui ont dit exactement la même chose au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi? Alors qu'on t'a fait parvenir le message, j'ai bien dit, lorsque la situation nous arrive, on peut crier à Dieu. Le Seigneur veut qu'on crie à lui. Mais lorsqu'on demeure dans la première attitude, l'attitude du pourquoi, nous on va s'atteler plus sur la deuxième attitude, celle que le Seigneur attend de nous. Mais l'attitude du pourquoi, on demande de compte à Dieu. On demande des explications, mais est-ce que Dieu est obligé de répondre? Est-ce que Dieu est obligé de répondre? Il nous arrive parfois que les enfants nous posent parfois des questions qui peuvent même être embarrassantes. On ne répond pas forcément à toutes les questions. Puisqu'on estime que la réponse que je vais donner ne va pas aider l'enfant. Le pourquoi ne nous fait pas avancer. On n'avance pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix à moi ne sont pas vos voix. » Et Marthe et Marie étaient dans l'attitude du pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Comme j'ai dit, le pourquoi, c'est demander de compte à Dieu. Quand le pourquoi dure longtemps, finalement, on n'écoute même plus ce que le Seigneur dit. Puis pourquoi? Parce qu'on n'est pas disposé tout simplement. Et c'est ce que nous lisons lorsque le Seigneur parle au verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, il lui parle, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Et dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Elle croit à ce moment-là, elle dit, « Oui, c'est vrai, je sais que tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ qui devait venir. » Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle part. Elle va dire à sa sœur Marie, « Le maître est là. » Et quand Marie arrive, qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement les mêmes questions qu'elle pose à Jésus. « Mais Seigneur, pourquoi ? Mais si tu avais été là, les choses auraient été différentes. » L'attitude du pourquoi nous amène à être incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu. L'attitude du pourquoi, puisque, comme on a dit, c'est une attitude où on demande des comptes à quelqu'un, eh ben, finalement, on s'attend à une réponse. Ou alors, je dirais, on s'attend à la réponse qu'on a envie d'entendre. Et lorsque le Seigneur nous donne une réponse qu'on n'attend pas, eh ben, comme ça ne nous satisfait pas, eh ben, on n'a même pas entendu. C'est ce que Jésus dit. Marthe dit à Marie, « Mais pourquoi tu es venu tard ?» Jésus dit, « Marthe, je suis la résurrection et la vie. » Il ajoute, il dit, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et il pose la question, « Est-ce que tu crois ?» Elle dit, « Oui, je sais que tu vas ressusciter les morts. Mais lorsque tu reviendras au dernier jour, en réalité, lorsqu'on est dans l'attitude de pourquoi devant Dieu, eh ben, quand Dieu nous parle, on n'est plus disposé à entendre. Un bien-aimé va te parler, il va te dire, mais dans ta situation, est-ce que tu as demandé pardon à un tel? Dans ta situation, est-ce que tu t'es humilié? Mais comme ma situation, c'est la maladie, moi je m'attends à ce que Dieu me guérisse, eh ben, je n'entends pas ça. La situation du pourquoi nous amène à choisir les serviteurs, les prédications qu'on veut entendre. Puisqu'on veut absolument une réponse à notre problème. Est-ce que Jésus a répondu à la question de Marthe et Marie? Jésus n'a pas répondu. Pourquoi tu n'étais pas ici? Est-ce que Jésus a dit, bon, j'étais à un tel endroit, tu sais, il y avait beaucoup de gens à sauver, à guérir, et la route... Non, Jésus n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps. Quand j'ai dit Dieu n'a pas le temps, attention, Dieu veut s'occuper de nous, mais il veut s'occuper de nous selon son projet, son plan. Comme on a dit, le titre de l'exhortation, c'est « Comment réagissons-nous face aux épreuves ?» Et Jésus n'a pas répondu à cette question parce qu'il n'avait pas de compte à rendre à Marthe. Il n'avait aucun compte à rendre à Marie. Il les aimait, certes, mais il n'avait pas de compte à rendre. L'attitude du pourquoi, on a dit, nous amène à devenir sourd à la voix de Dieu. Tu lis un verset biblique, le Seigneur te parle au travers de ce verset, mais comme tu attends une chose précise, une prophétie sur mesure, eh bien Dieu ne la donne pas. Seigneur, pourquoi tu gardes silence? alors que j'ai prié. L'attitude du pourquoi nous amène finalement à devenir rebelles vis-à-vis de Dieu. Puisqu'on n'a pas d'explication, puisqu'on a prié, il n'y a pas de réponse. Puisqu'on a fait ce qu'on doit faire et que les choses ne changent pas, puisqu'on a prié, on a jeûné et que la situation ne s'améliore pas, au fond, on est comme en colère vis-à-vis de Dieu. On se rappelle de la phrase de la femme de Job qui vient voir Job. Lorsque je lis ce passage, on ne parle pas de la femme de Job avant. On ne parle pas d'elle. On parle de Job qui était un homme intègre, qui faisait des sacrifices pour toute sa famille, ses enfants. On parle d'un homme qui craignait Dieu. Mais il est arrivé un moment où la femme en a eu marre. Elle est venue voir Job pour dire, mais tu restes intègre. Regarde la situation. On a prié. On a fait ce qu'il fallait. Et Dieu est où? Regarde comment Dieu nous fait souffrir. Alors maudit Dieu seulement et meurt. C'est ça l'attitude du pourquoi. Comme on a dit, le pourquoi, quand on demande pourquoi à quelqu'un, c'est qu'on demande de compte qui, lorsque on voit dans nos situations, même dans nos familles, le papa dit quelque chose avec une certaine autorité. Toi, tu viens pour dire pourquoi tu dis, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Le président de la République qui dit on fait comme ça. Qui es-tu toi pour venir dire, mais pourquoi tu... Non. Même si on est intime, peut-être on va attendre d'être à deux pour poser la question, mais avec une certaine diplomatie. Pour dire, mais chef, président, mais vous avez pris telle orientation, mais ne pensez-vous pas... Voilà. Et la première attitude, c'est pourquoi Seigneur? Comme j'ai dit, ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. Mais lorsque la situation dure, comprenons que le Seigneur veut nous amener à la deuxième étape. Et c'est ça que nous allons voir après. Là, nous sommes dans le pourquoi. Seigneur, pourquoi tu permets que j'ai un papa mauvais? Une maman méchante. Seigneur, pourquoi tu permets que je naisse dans tel pays, telle famille? Seigneur, pourtant, ne m'as-tu pas parlé? Tu m'as fait tu m'as donné des prophéties. Tu as fait un projet pour moi. Seigneur, mais pourquoi? Je ne vois pas. Comme on a dit, Dieu, souvent, il ne répond pas toujours au pourquoi. Puisque quand on est dans la situation de pourquoi, on est dans une situation d'explication. On demande des comptes. Et Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Il peut nous révéler sa volonté, dans sa souveraineté. Il peut nous révéler des choses. Un homme comme Joseph qui a reçu des prophéties, qui a eu des visions, des songes, Dieu lui parle et lui dit, voilà, tu vas diriger, tu vas régner sur ta famille. Mais nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph est passé par quel chemin pour arriver à vivre le plan de Dieu? Par quel chemin Joseph est passé? Le pourquoi ne nous fait pas avancer. Et même si on a la réponse, et même si Dieu nous donne la réponse, en quoi ça nous avance? Lisons ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 20, verset 24. Après, nous lirons Ésaïe 45. Donc, on cherche les deux pages. Proverbe 20. Proverbe 20, verset 24. Après, nous lirons Ésaïe 45. Proverbe 20, 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Ou dans d'autres versions, c'est écrit, mais l'homme, donc la première partie, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, qui conduit l'homme. Et la question c'est, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? L'homme peut-il savoir où Dieu le conduit, où Dieu le mène? L'homme peut-il comprendre cela? Et en fait, le pourquoi, quand on demande à Dieu pourquoi, c'est qu'on cherche à comprendre. Seigneur, mais tu veux m'amener où? Où est-ce que tu veux me conduire? Et voilà ce que nous dit la parole. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Et l'homme ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Et ça rejoint un petit peu ce que le Seigneur Jésus dit à Nicodème dans Jean 3. Et il dit que celui qui est né de Dieu, eh bien, Dieu le conduit. Il ne sait pas d'où vient le vent, il ne sait pas où le vent le conduit, mais il sait une chose, c'est que le vent est là, que le vent le souffle. Ça, il le sait, là, il est sûr de cela. Mais de tous les détails, il n'est pas au courant. Mais il sait que c'est Dieu qui est à la manœuvre. L'homme peut-il comprendre là où Dieu le conduit, là où Dieu le mène? On ne comprend pas toujours. Mais l'attitude de pourquoi, c'est une attitude d'explication. Seigneur, je veux saisir. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Le Seigneur dit, malheur à qui dit à son Père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et sur elle ai créé l'homme. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de dire. Le Seigneur regarde la terre, il dit, mais l'homme, qui est l'homme? Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 9, à partir du verset 20. Il dit, ô homme, qui es-tu toi pour contester avec ton Créateur? Et comme on a dit tout à l'heure, le pourquoi, c'est la contestation. On veut comprendre, mais Seigneur, mais tu exagères. Je pense qu'on ne le dit pas, en tout cas, de cette manière-là. Mais dans le cœur, il y a une attitude qui fait qu'on est en colère. Et devant l'incompréhension, devant le silence, devant le manque de réponse, ça nous énerve. Et le Seigneur dit ici, il dit, malheur à celui qui veut contester avec Dieu. Il dit, malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Pourquoi m'as-tu fait ainsi à sa mère? C'est cela. Et lorsque le Seigneur parle d'argile et de vase ici, dans Jérémie 18, il dit que je suis le potier, je travaille l'argile. Et il est écrit, lorsque il trouve que l'argile ou le vase ne lui convient pas, il recommence, il détruit, il recommence, il refait son travail. Et pendant ce temps-là, il y en a qui restent dans la première attitude. Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe pas. Et c'est ce qu'il dit à ce peuple au travers de ce passage d'Ésaïe 45. Il dit, tu veux me poser des questions? Veux-tu aussi me questionner sur l'avenir? Veux-tu aussi me questionner? Or, les questions sur l'avenir, nous les connaissons. Nous avons les réponses dans Jérémie 29, 11. Le Seigneur dit qu'il a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Il veut nous donner un avenir, de l'espérance. Ce sont des projets qu'il a faits pour nous. Mais ces projets-là s'accompliront parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais elles s'accompliront par le chemin que le Seigneur aura tracé. Par le chemin que le Seigneur aura tracé. Et le pourquoi, c'est celui qui veut chercher à comprendre. Quitte à défier Dieu. Comme il y en a qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des viols? Mais si Dieu existe, pourquoi il y a des tremblements de terre? Mais si Dieu existe, pourquoi? En fait, le pourquoi qu'il pose comme question, ce n'est pas le pourquoi de vraiment savoir, comprendre. Non, en fait, c'est un pourquoi de rébellion pour dire qu'il a mal fait les choses. Est-ce qu'on se comprend? Le pourquoi quand on dit, mais si Dieu existe, pourquoi ça? C'est que, en quelque sorte, il a mal fait les choses. S'il est amour, s'il est bon. Mais pourquoi il fait ça? La réponse absolue, c'est à cause du péché. Après, il y a d'autres raisons qui sont liées à la connaissance de Dieu qui peut nous révéler. Et la première attitude, c'est pourquoi, Seigneur? Et nous revenons maintenant à l'histoire de Marthe et Marie. Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Et le Seigneur parle à Marthe et Marie. Nous lisons toujours dans Jean. Jean au chapitre 40. Où on peut commencer au verset, Jean 11, au verset 39. Jésus parle. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà le Seigneur. Lorsqu'on lit ce passage de Jean 11, 40, on sent un certain agacement, entre guillemets, on sent, c'est comme si Jésus dit, mais depuis que je te parle, tu n'as pas compris qui je suis. Mais Marthe ne pouvait pas comprendre cela parce que son attitude était fermée à ce que Dieu voulait faire à ce moment-là. Son attitude était bloquée. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La deuxième attitude, et c'est ça que le Seigneur attend de nous, c'est non plus pourquoi Seigneur, pourquoi, c'est Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi ce que tu veux que j'ai comme attitude pour attendre la délivrance qui vient de toi. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comment tu vas faire? Humainement parlant, c'est impossible parce que Lazare est mort 4 jours. Il sent déjà. Il se décompose. Alors avec mon intelligence, pour moi c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais toi tu me dis encore de croire. Alors Seigneur, aide-moi. On se souvient dans Luc 13, je crois, le père de ce fils épileptique. Les disciples viennent, ils prient pour lui. Ils prient pour l'enfant, pardon. Il n'arrive pas, Jésus vient. Le Père vient vers Jésus, il dit, Seigneur, je crois que tu peux faire quelque chose. Mais viens au secours de mon incrédulité. En quelque sorte, il veut dire, Seigneur, telle que la situation est présentée, les disciples en plus ont prié, ils ont la puissance qui vient de toi, ils n'ont pas réussi. Alors j'ai vraiment du mal à croire que tu puisses faire quelque chose dans cette situation-là. Alors aide-moi à croire que tu es tout puissant pour le faire. Et là, on entre dans la deuxième attitude, celle que le Seigneur attend de nous. Seigneur, comment tu vas faire? Moi, je n'ai pas tous les éléments, mais toi, tu as tous les éléments. On a dit, le pourquoi, c'est une attitude de rivalité avec Dieu. On demande des comptes. Pourquoi tu fais ça? Explique-moi. Et le comment, c'est une attitude d'humilité. On dit, Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu veux faire. Là, il y a des choses qui m'échappent. Alors, comme c'est toi qui dis, eh bien, moi, je vais baisser la tête. Je vais m'humilier. Amen. Comment réagissons-nous face aux épreuves? Est-ce que nous sommes dans la première attitude? Le Seigneur nous veut aujourd'hui que nous puissions passer dans l'attitude d'humilité, de dire, Seigneur, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. Et il y a un verset qui m'a toujours étonné, mais c'est en préparant cette exhortation que j'ai compris. Lorsque le Seigneur dit dans Jacques au chapitre 1er, c'est le verset que nous connaissons tous en tout cas, par rapport aux épreuves Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. C'est en méditant sur cette exhortation que j'ai compris Jacques. Parce qu'humainement parlant, qui peut voir l'épreuve comme quelque chose de réjouissant? Et en plus, là, il parle de diverses épreuves. Donc, c'est-à-dire que tu as une situation qui se présente. En même temps, on t'appelle, on te dit, ah, là, le compte, là, il est dans le rouge. En même temps, on t'appelle, on te dit, ah, là, les pneus de la voiture, le contrôle technique ne passe pas. En même temps, on t'appelle, on te dit, bah, là, il y a une autre situation encore. Alors, quand tout ça vient, Jacques dit maintenant, voyez ça comme des sujets de joie. Mais comment voir ça comme des sujets de des situations qui doivent produire la joie? C'est lorsque on se met à genoux, on dit, Seigneur, par quel chemin tu veux me faire passer? Seigneur, comment? Je n'ai pas tout compris, Seigneur, et je ne cherche pas à comprendre. Alors je vais m'humilier, Seigneur. Non pas pourquoi tu fais ça, mais Seigneur, comment tu veux faire? Suis-je à ma place? On voit bien la différence. Le comment, on est à la place d'humain, puisqu'on n'a pas compris. On dit, je ne maîtrise pas tout, Seigneur. Il y a des choses qui me dépassent. Alors, dans ce qui m'arrive, il y a certainement quelque chose de bien que tu veux m'apprendre. Et là, les deux attitudes ne sont pas les mêmes. Puisque dans cette deuxième attitude, on devient disposé à voir maintenant la main de Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur n'agira pas parce qu'on lui demande des comptes, jamais de la vie. Il n'agira pas parce qu'on lui demande des comptes. Et il n'a même pas de compte à nous rendre. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 45. Mais lorsque notre attitude change, c'est là qu'on commence à comprendre. Et là, on comprend Romains 8, 28 qui dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est là qu'on saisit maintenant la parole. Puisque si on te sort ça, toute chose, ah oui, mais tu parles parce que tu ne connais pas ma situation. Mais là, quand on est dans la deuxième attitude, on s'humilie. Et c'est ce que Jésus a voulu apprendre à Marthe et Marie. Il aurait pu venir dire à Marthe et Marie, mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire que Dieu a tort. Pourquoi je suis venu? Mais je suis venu pour les ressusciter. Il aurait pu dire cela. Mais Jésus a voulu faire un travail. Et ce travail est passé par quoi? Par la foi en la parole. Il parlait de la parole à Marthe et Marie. Il aurait pu dire directement, je viens pour agir. Mais il a voulu ramener Marthe et Marie à la parole. Amen. Le comment, c'est on revient vers la parole de Dieu, Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Tu me dis que tu m'amènes d'un point A à un point B. Mais voilà que j'ai l'impression de sortir de la route. Je me retrouve au point C. Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi afin que je reste sur le chemin. On se rappelle du peuple d'Israël. Il est écrit dans Exode 13. Lorsque Dieu a sorti les peuples, il a choisi de les faire passer par le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit, si je fais passer par le chemin le plus court, ils vont se repentir, ils vont voir l'adversité et ils vont retourner en arrière. Et Dieu fait passer le peuple par un autre chemin. Et dans ce chemin-là, le peuple commence à murmurer. Nous lisons cette histoire-là. Exode 14. Rapidement, Exode 14. Et puis nous allons revenir. Exode 14. Exode 14, à partir du verset 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel, ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert ?» Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? En quelque sorte, mais pourquoi Dieu fait ça? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Donc Dieu, tu as tort. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais en dire sur les cœurs des Égyptiens, pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et y crut en l'Éternel et en Moïse, son prophète. Amen. Le peuple, Dieu dit à Moïse, tu vas libérer mon peuple. Déjà Dieu envoie Moïse voir le Pharaon. Moïse lui-même a peur, il dit, mais Seigneur, mais comment tu m'envoies vers le Pharaon? Déjà moi j'ai du mal à parler, mais en plus je n'ai pas une armée, je n'ai pas quelque chose qui peut me rassurer. Moïse avait un simple bâton. Moïse pouvait dire à Dieu à ce moment-là, mais Seigneur, mais pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Tu peux faire quelque chose sans avoir besoin de me faire souffrir comme ça. Mais l'attitude de Moïse, même s'il a eu peur, mais puisqu'il s'est justifié en disant, Seigneur, je ne sais pas parler, et Dieu a trouvé Aaron pour l'aider, mais dans tous les cas, au fond de lui, Moïse savait que ce n'était pas une question de pourquoi, Seigneur, mais donne-nous des comptes. Non, il savait que Dieu allait le faire. Et il est tout puissant pour le faire. Il a peut-être hésité, mais il savait, c'était une question, Seigneur, comment tu vas faire? Voilà, je n'ai pas tout compris. Je sais que tu vas faire, mais par quel chemin tu vas passer? Et là, on voit le peuple qui sort, il arrive devant la mer. Et là, il commence à se lamenter. Mais Moïse, mais pourquoi Dieu? Mais Moïse, mais Moïse, mais Moïse. Dieu entend ces cris-là. Il dit, mais pourquoi tous ces cris? Il dit au peuple de se taire, de garder silence et de voir la délivrance que je vais apporter. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est que on peut se retrouver comme devant cette mer, une impasse. On est bloqué. Tu as l'impression que devant, c'est fini. Derrière, c'est même pas la peine. Encore, vaut mieux encore risquer devant, parce que derrière, c'est sûr qu'on va me tuer. Et c'était la situation du peuple. Mais Dieu avait une solution. Amen. Dieu avait sa solution. Voilà pourquoi le cœur de l'exhortation, c'est nous faire entrer dans « Seigneur, comment tu vas faire ? Il y a la mer qui est là. » On connaît les chants qu'on a chantés avec à la fête de l'Éternel. Les chars et les soldats du Pharaon, ils voient les chars, ils voient les soldats, devant eux la mer. Ils disent « Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Dieu dit à Moïse, écoute, le bâton que tu as, tu vas mettre dans la mer et tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça. Alors, humainement parlant, est-ce que Moïse imaginait que le bâton qu'il avait allait être l'instrument que Dieu allait utiliser pour libérer le peuple? Je pense pas qu'il y était. En tout cas, il avait foi en Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire, mais il avait foi en Dieu. Et Dieu, il dit, utilise le bâton que tu as là. Touche, et tu vas voir ce que je veux faire. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Sortons du pourquoi. Il y a des gens qui ont vu leur vie, entre guillemets, bloquée depuis 10, 15 ans parce qu'ils disent je prie, ils disent je vais à l'église, ils disent je sers Dieu. Mais en réalité, dans le cœur, c'est pourquoi? Pourquoi je n'ai pas grandi avec mes parents? Pourquoi je suis un enfant de la DAS? Même s'il est chrétien aujourd'hui, il vit toujours avec cette blessure-là. Et tant que le pourquoi est là, Dieu est Dieu. Il nie pas notre souffrance, il connaît la souffrance, mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Celui qui dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Pardonne-moi parce que j'ai jalousé lorsque je vois des enfants, des jeunes avec leurs parents. Moi, je n'ai pas connu ça. Seigneur, c'est vrai, ça m'a fait souffrir. Seigneur, mais pardonne-moi. Et là, c'est là que Dieu va agir maintenant pour combler maintenant le manque que tu as eu. Lui, il a plus à donner. Le manque d'affection, le manque d'amour, lui, il a plus à donner. Mais l'attitude doit être différente. Et c'est ce que Dieu a voulu montrer à Moïse et au peuple en disant, regardez de quoi je suis capable. Mais le peuple ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'on lit Exode 17, lorsqu'il parle encore pour l'eau en disant, mais nous avons soif, nous avons faim, mais Moïse, mais Moïse, mais Moïse. Et là, Dieu parle encore à Moïse et dit, écoute, Moïse, ce n'est pas contre toi qu'ils en ont. Ce n'est pas après toi, c'est après moi. Et Dieu a quand même agi. Le but, c'était de montrer à l'homme que l'homme ne doit pas chercher à comprendre pourquoi Dieu fait les choses, comme ça ou comme ça, mais à dire, Seigneur, dans ce que tu fais, je vois rouge, je ne vois rien. Mais quelle attitude je dois adopter, Seigneur? Quelle doit être ma place dans ce que tu fais là? Quelle doit être ma place? Et là, quand on est dans cette attitude-là, le Seigneur agit. Je ne saurais pas te dire comment, devant la mer rouge. Dieu savait ce qu'il allait faire. Nous ne savons pas, mais il a agi. C'est cela. On se rappelle, c'est un exemple que j'aime beaucoup, les amis de Daniel. Ils se retrouvent devant le roi de Babylone, Nabucodonosor. Le roi en colère, il dit, est-ce des propos délibérés que j'entends que vous refusez de vous prosterner devant mes dieux? Voilà quelle pression. Je me suis mis à la place de ces gens-là pour dire, et je me mettais à leur place en disant, mais Seigneur, comment on aurait réagi? On dit, Seigneur, mais tu m'as jeté dans la gueule, excusez-moi le terme, dans la gueule du loup. Seigneur, pourquoi? Mais nous t'aimons, nous te servons. Mais pourquoi tu permets cette situation-là? Mais voyons l'attitude de ces gens-là. Et c'est un passage qui m'a toujours étonné. Parce que là, ce n'est pas une question de prison, non. C'est une question de vie ou de mort. Donc, tu renonces à ton Dieu, tu gardes la vie. Tu t'attaches à ton Dieu et on te tue. Et quelle mort! Calciné. Et lorsque je méditais ce passage, qu'est-ce que ces hommes répondent au roi? Ils disent, roi, nous n'avons pas à polémiquer avec toi. Nous n'avons pas à discuter avec toi. Notre Dieu est le véritable Dieu. Et sache une chose qui nous délivrera de ta main. Et là, nous sommes dans le comment. Donc, ce qu'ils disent, est-ce qu'ils savent ce qui va se passer après? Ils ne savent pas. Mais ils savent une chose, c'est que Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas un roi qui va arrêter Dieu. Aussi puissant soit-il, ils le savent. Ils disent, notre Dieu peut nous délivrer. On ne sait pas comment. Comment il va faire? Mais sache qu'il peut nous délivrer. Mais même s'il arrive qu'il ne nous délivre pas, sache que nous n'allons pas nous prosterner. Combien de chrétiens n'auraient pas dit à ce moment-là, « Ah, Seigneur, ah là là, tu m'as abandonné. Seigneur, tu es où? Ah, Seigneur !» Mais regardons la réponse de ces gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi lui-même, il n'était pas en paix parce qu'il a été troublé par la réponse de ces gens-là. Il a été dérangé. Quelle assurance! Je pense qu'en temps normal, il serait parti dans sa couche, donner l'ordre, dire « Allez, tuez-les et rentrez. » Il serait parti. Mais là, il était dérangé. Et il vient voir, il vient guetter. Et là, il voit quatre hommes, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas trois hommes, mais je vois un quatrième homme qui est là. Ces hommes-là ne savaient pas par quel chemin Dieu allait passer. Mais Dieu a quand même permis qu'ils entrent dans la fournaise. Mais ensuite, il les a sortis. C'est pour nous dire que Dieu agit comme il veut, face aux épreuves. Il peut permettre parfois qu'on connaisse des situations. Des épreuves, l'adversité, tout ce qu'on veut. Il peut nous sortir de ces situations-là. Il peut aussi permettre qu'on demeure dans la situation. Mais dans cette situation-là, il pourvoit nos besoins. Celui qui te regarde, il voit Jean-Luc, il dit, mais oh là là, il doit être malheureux. Encore deux, trois jours, il va faire la dépression. Tu n'as pas entendu ce qu'on dit sur lui. Voilà, il va être convoqué au travail. Là, c'est les collègues. Là. Et toi-même qui es dans la situation, tu siffles, tu chantes, tu es en paix. Dieu peut permettre cela. Comme ça a été le cas pour les amis de Daniel. Mais le but était plus grand. Le but de Dieu, c'était que le roi reconnaisse que le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu des amis de Daniel, c'est le seul, l'unique et le véritable Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Et pour arriver à ce plan-là, Dieu n'a pas expliqué à ces gens-là toutes ces choses. Il n'est pas apparu en vision pour dire, voilà, mes enfants, ce que je veux faire, vous allez être mis dans la fournaise, je vais vous délivrer. Dieu n'a pas expliqué toutes ces choses-là. Mais ces gens-là aimaient Dieu. Ils avaient une grande considération pour Dieu. Ils se sont dit, non, Dieu ne peut pas se tromper. Même s'il arrive qu'à ce moment-là, on soit comme dans une défaite, comme si on échoue. Mais Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Alors nous ne savons pas comment. C'est ce qu'ils répondent au roi. Et c'est ça que Dieu voulait faire. De même, nous ne comprenons pas tout. Tous les chemins, tous les recoins, nous ne comprenons pas tout. Mais nous savons une chose, c'est que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. C'est la vérité. Il est vivant. Alors sortons des interrogatoires vis-à-vis de Dieu, de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Je connais l'histoire, c'est un jeune qu'on a eu au foyer, là où je travaille, et qui vient d'Afrique, Et tout se passait très très bien pour lui. Très bon élève à l'école. Et il y a eu un projet de famille d'accueil. Il devait partir vers Cergy en famille d'accueil. Et tout était bien fait jusque la veille. Et souvent, je discute avec lui. Il me dit qu'il est chrétien. On parle, on s'exhorte, on échange. Et la veille, il y a un fax qui arrive de l'aide sociale à l'enfance pour dire, voilà, le jeune, les papiers vont à la PAF parce qu'ils sont présumés, entre guillemets, faux. Donc, il n'est pas mineur, il est majeur. Donc, ça veut dire que toute la procédure, famille d'accueil, tout, la prise en charge à l'ASE, tout est fini, terminé. Et il vient me voir. Et là, quand c'est comme ça, on te convoque à l'ASE, on te dit, bon, tu as l'après-midi pour réfléchir, on est gentil, on te paye le billet, tu choisis. Ils sont gentils, ils proposent la mer. C'est ce que l'inspectrice dit. Je te propose soit d'aller à Caen, je t'achète le billet, ou alors d'aller à Paris. C'est toi qui choisis. On te paye le billet. Alors il vient me voir, il pleure, il dit, voilà ma vie depuis que je suis en Afrique. J'ai connu la galère avec ma mère, j'ai souffert. Il m'a raconté tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu. Et moi, je l'écoutais, je dis, écoute, on ne sait pas pourquoi les choses se font ainsi, mais Dieu lui a des explications. Alors plutôt que de rester dans ta tristesse pour dire mais pourquoi ? Parce que dans le pourquoi, il y a aussi le pourquoi moi. Pourquoi c'est toujours moi ? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres ? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Et finalement, il est parti du foyer, il a été mis dans un foyer dans le 115. Ceux qui connaissent un petit peu, ils savent les réalités du 115. Un jeune qui va à l'école. Je vous passe les détails de tout ce qu'il a vécu au 115. Et un jour, il revient, 3-4 mois après, il revient au foyer. Il dit, ah tiens, oh, j'ai des bonnes nouvelles. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai reçu un courrier de la préfecture, je vais demain pour avoir ma carte. Et ce jeune-là, il a souffert. Il vivait au 115, étudiant au lycée. Avec des personnes parfois qui ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue en plein hiver. Il dit, mais mon voisin de chambre, il vomit, on dort, la fenêtre ouverte. Il va à l'école à pied. Peut-être 20 kilomètres, puisqu'il n'a aucun droit. Et il me dit, il y a une chose. J'ai pleuré à Dieu, j'ai souffert pendant ce temps-là. Mais il y a une chose que j'avais dans mon cœur, je me suis dit. Et il dit, le Seigneur m'a mis à cœur plutôt de rester gentil, de rester bon avec les éducateurs, même au 115, même si c'était comme injuste. Il y a des gens qui boivent l'alcool, qui se saoulent, qui ont l'argent, qui ont ce qu'il faut, qui sont pris en charge par les éducateurs du 115. Lui, il n'a rien, puisqu'il n'a pas de situation. On ne peut rien faire pour lui. Et il dit, par moments, je sentais comme la rébellion. Je voulais aussi parler comme les autres qui sont là. Parler mal aux éducateurs. Mais il dit, il était dérangé par ça. Il dit, moi, je restais correct. Quand il faut faire à manger, je fais à manger. Je viens de l'école, j'ai des devoirs. Je fais tout ce qu'on me demande de faire, sans problème. Et un jour, le directeur du foyer, qui connaît le préfet d'Évreux, est allé voir le préfet pour présenter sa situation. Mais ça a duré 3 mois. Mais pendant ce temps-là, lui, il n'était pas au courant. Il ne savait pas ce qui se passait. Parce qu'entre les éducateurs, il se disait, mais ce jeune-là, ça fait 3 mois qu'il est là, il est scolarisé, il travaille bien à l'école, mais il faut qu'on se bouge pour lui, qu'on fasse quelque chose. Mais lui, à ce moment-là, il ne savait pas. Et entre-temps, le proviseur du lycée où il est le convoque pour lui dire, tu as des bonnes notes. Et on a appris ta situation. Alors moi, je m'engage à faire une demande à l'inspection académique pour que tu aies une bourse. Donc, il a été pris en charge et par le lycée, et par la préfecture et tout le reste. Et lorsqu'il m'a raconté ça, c'est là que j'ai compris. Parfois, nous sommes très souvent dans le pourquoi. On se lamente, on pleure. On accuse Dieu. Et lui, son attitude à lui, c'est dire, Seigneur, comment dois-je me comporter? Je sens qu'en moi, il y a la rébellion. Je vois que les autres sont méchants Ils crient et ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et moi, c'est comme si on me marche dessus. Et c'est ça la prière qu'il a fait. Et ce qu'il a reçu du Seigneur, c'est de rester obéissant, de rester correct. Et le Seigneur a fini par agir. Et voilà ce jeune-là. Il y a des jeunes qui sont partis en famille d'accueil, qui ont eu des situations encore meilleures, mais qui aujourd'hui sont revenus à la case départ. Pourtant, à ce moment-là, ils avaient progressé. C'est lui, et parfois même, c'est eux qui nous donnaient des nouvelles de ce jeune, en disant, « Ah, mais voilà, comment il galère, je l'ai eu au téléphone, il souffre. » Mais aujourd'hui, c'est lui qui est dans une situation plus confortable. On ne comprend pas toujours tout. Mais ce qu'on peut faire, c'est dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Là, le Seigneur nous dira, « Lis la parole. » Médite. Médite ma parole. Regarde les plans que j'ai projetés pour les projets que j'ai formés pour toi. Est-ce que tu crois à cela? Seigneur, comment je dois me comporter? Prie, fléchis les genoux. Seigneur, comment je dois faire? Adore-moi. Glorifie mon nom, tu verras ce que je veux faire. C'est cela. Entrons dans le comment avec le Seigneur. On se rappelle de l'histoire, du témoignage de cet homme que j'aime beaucoup aussi, Nick Vujicic, c'est un Australien qui est né sans jambes ni bras. Et il raconte son témoignage et il dit lorsqu'il est né, le papa qui était à côté de la sage-femme, il pose la question, il dit, mais mon fils n'a pas de jambes. La sage-femme lui dit, non, seulement il n'a pas de jambes, mais il n'a pas de bras. Alors là, le papa est sorti de la salle. Il dit, sa maman n'a même pas voulu le porter. Les parents étaient chrétiens. Elle n'a pas voulu le porter. Et il dit, pendant longtemps, à l'église, tout le monde était dans la consternation. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu peut faire quelque chose comme ça? Un enfant qui naît comme ça. Qu'ont-ils fait? Qu'ont fait les parents? Ils ont peut-être pu se poser la question, qui a péché? On se souvient dans Jean 9, parenthèse. Est-ce que c'est lui, Seigneur? Qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents? Pourquoi il est né comme ça? Jésus a répondu, ce n'est pas une question de pourquoi, de demander des comptes, non. La question à poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec lui? C'est ça que Jésus a voulu dire. Non, ce n'est pas une question de lui. Parce que la loi disait, la loi, quand il pose la question, c'est parce qu'il se référait à la loi. La loi de Moïse disait, si tu pêches, eh ben, tu seras frappé d'aveuglement, de lèpre, de toutes sortes de fléaux qui vont s'abattre sur toi. Alors quand il pose la question, il pose en connaissant la loi. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas pourquoi demander à Dieu de compte pour tout comprendre. Non, vous ne comprendrez rien du tout. Le problème, c'est que Dieu a fait ça pour manifester sa gloire. Alors au lieu de chercher pourquoi, chercher à savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec cet homme. Amen. On ferme la parenthèse, on revient à l'histoire de Nick. Alors, il a commencé à grandir avec les enseignements sur le Seigneur. Et il pose souvent la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis que je naisse avec moins que les autres? Si tu es bon, si tu as amour, comment tu peux permettre une telle injustice? Tous les jours, il disait à Dieu, pourquoi? Je veux te servir, je veux te suivre, je veux me convertir, mais dis-moi d'abord, pourquoi tu m'as créé comme ça, sans bras ni jambes? Et il dit qu'il n'a jamais eu de réponse à cette question-là. Dieu n'a jamais répondu. On dira, mais c'est légitime de poser cette question-là. Oui, on peut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre. Mais ne soyons pas dans une attitude où on veut demander des comptes à Dieu. Et il dit un jour, sa mère lui met un film d'un homme qui était plus handicapé que lui, qui était chrétien. Et là, il a commencé à réfléchir. Alors il dit, je suis partagé entre la joie, moi, de manquer de bras, de jambes, mais d'être quand même autonome, d'une certaine manière, même si j'ai un fauteuil, même si j'ai tout ça, mais au moins je vis. Il dit la situation de cet handicapé-là était tellement grave qu'il se disait, est-ce que je dois me réjouir de ce que je suis, tel que je suis, ou alors je dois continuer à blâmer, à être en colère vis-à-vis de Dieu. À l'âge de 8 ans, il a voulu se suicider. Et ce qu'il a retenu, c'était l'amour pour ses parents. Il s'est dit, si je meurs, quelle souffrance je vais apporter à mes parents qui m'aiment, malgré ma situation telle que je suis, ils m'aiment. Et un jour, sa mère lui dit, Nick, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu sois tel que tu es, mais ce que je sais, c'est que Dieu va t'utiliser pour sa gloire. C'est là qu'on entre dans « Seigneur, comment tu vas faire ?» Regarde tel que je suis là. Il dit, tout le monde lui disait « Mais tu ne pourras jamais travailler. Tu ne pourras jamais te marier. Tu ne pourras jamais faire ci, faire ça. » Et il dit, mais vraiment, quelle parole encourageante quoi, pour l'avenir. Donc tout le monde te rappelle cela, que déjà toi-même, tu sais que tu es voilà, tu as un véritable handicap vis-à-vis des autres, mais en plus, tout le monde te le rappelle. Et il a encore posé une question au Seigneur. Seigneur, pourquoi ? Et là, le Seigneur lui dit simplement, est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu me fais confiance ? Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque le Seigneur lui a parlé, pour lui dire, est-ce que tu me fais confiance ? Parce que tous les jours, tu demandes pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais est-ce que tu me fais confiance? Là, il a accepté. Il s'est converti. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, il glorifie le Seigneur. Sa situation est un témoignage. Non, pas que Dieu ait besoin de choses spectaculaires, non. Mais c'est Dieu qui a choisi les choses ainsi. Pourquoi on ne sait pas? Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Seigneur se glorifie même dans ces situations-là. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Sortons de l'attitude de pourquoi. Entrons dans l'humilité. Le Seigneur, je n'ai pas compris. Pierre revient de la pêche. Il dit, on a pêché toute la nuit. Seigneur, mais tu nous renvoies encore. Pêcher. Il dit, bon, je suis sur mes réserves, mais puisque c'est ta parole qui le dit, alors moi j'y vais. Et c'est ça que Dieu va faire aussi dans nos vies. Croyons tout simplement qu'il est Dieu, qu'il nous aime. Ayons foi. Lorsqu'on voit l'histoire d'un homme comme David, qui était l'homme, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, tout ce que David a souffert, quand il a péché, il a été frappé. Et parfois même, frappé même injustement. Mais David a accepté toutes ces situations-là. Pourquoi ? Parce qu'il se disait, lorsqu'on se rappelle de l'épître avec Shimei, où on vient l'insulter, David dit, peut-être que Dieu, en voyant ma souffrance, il aura pitié de moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait passer par tout ça, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut m'humilier tellement au point que dans mon chagrin, dans ma souffrance, qu'il ait pitié de moi. C'est cela. Il était roi. Il aurait pu se faire justice tout seul avec ses hommes. Terminer le problème de Shimei, qui était un proche de Saül. Mais il n'a pas vu les choses ainsi. Il s'est dit, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais au moins, ce que je peux faire, c'est déverser mon cœur. Ce que je peux faire, Seigneur, c'est m'humilier devant toi. Ce que je peux faire, c'est prier. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu agiras certainement. Nous finissons avec le psaume de David. Psaume 143 de David. psaume 143. À partir du verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 8. « Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Voilà ce que David est en train de dire à Dieu. Il dit « Aie pitié de moi. » Il dit « Aucun humain n'est juste devant toi. » Et ça, c'est important de considérer cela. Parfois, on est dans l'épreuve, on paraît comme si on est saint, on est, quand je dis saint, où nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ, oui, mais on paraît comme si on n'a aucun problème. Donc Dieu, mais pourquoi cela? Et comme on a dit, le pourquoi, on se met en position de rivalité, c'est-à-dire qu'on est blanc comme neige devant Dieu. Mais lorsque Dieu voit ça, il rigole. Il rigole. Et voilà ce que David dit. Il dit « Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes voies, tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Verset 8 qui nous intéresse. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, que je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Amen. Seigneur, dis-moi quelle attitude je dois avoir. C'est ça la prière que David fait à Dieu. Il dit « Je ne comprends pas tout. » Mais ce que je peux faire, c'est te glorifier, t'adorer, te célébrer. Puisque je sais que tu es tout-puissant, tu es fidèle. Et il dit, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi la voie que je dois prendre. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous. Et pour résumer, c'est dire tout simplement que les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Comme on nous dit souvent, un chrétien qui vit une vie chrétienne sans épreuves, doit se poser des questions. Il y a un problème. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Les épreuves sont là pour révéler aussi notre attachement à Dieu, à la parole de Dieu. Les épreuves sont là pour révéler notre véritable nature aussi. Et la vie chrétienne, c'est cela. Alors, il y en a qui, devant ces situations, vont demander des comptes. Seigneur, pourquoi il y a deux voies? Qu'est-ce que je... Mais Seigneur... Et il y a les autres qui se retrouvent dans cette situation et se disent, Seigneur, où est-ce que je dois partir? Quelle direction je dois prendre, Seigneur? Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Je suis confus, je reconnais, c'est ce que David dit. Il dit, je suis confus, je ne sais pas. Alors toi, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, le Seigneur dit, aucune tentation qui nous survienne ne peut venir. Dieu ne permet pas cela si il ne donne pas aussi le moyen d'en sortir. C'est pour dire quoi? Ce verset nous dit qu'en réalité, on parle de tentation, bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi aux épreuves auxquelles nous sommes soumis. Donc quand Dieu permet cela, il sait premièrement que il nous a donné ce qui est nécessaire pour tenir face à cette épreuve, mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'il y a une porte de sortie. Il y a toutes les façons une porte de sortie avec le Seigneur. Alors, arrivé à cette porte de sortie, quelle attitude nous allons avoir? Est-ce que nous allons avoir la première attitude pour dire, bomber le torse, dire, mais pourquoi? Ou alors nous allons avoir la deuxième attitude pour s'humilier, pour dire, Seigneur, la mer rouge est devant. Abraham va avec son fils, le fils de la promesse. Dieu lui a parlé longtemps avant. À 100 ans, il a le fils. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Abraham monte avec le fils. Le fils lui pose la question, Père, on a le feu, on a le bois. Où est l'animal pour le sacrifice? Qu'est-ce qu'Abraham répond? Il dit, Dieu se pourvoira pour lui-même. Je pense que dans la tête d'Abraham, ça tournait. Mais Seigneur, mais c'est toi qui m'as promis. Seigneur, j'ai attendu longtemps. Mais en plus, non seulement tu m'as promis un fils, mais tu as dit que toute la terre sera bénie au travers de ce fils. Mais il y avait toutes ces questions dans la tête. Et le fils lui pose la question et dit, mais où est l'animal? Dieu, Abraham dit, Dieu se pourvoira pour lui-même. C'est cela l'attitude que le Seigneur veut avoir. Veut qu'on ait, pardon, c'est, je ne comprends pas tout, mais Dieu lui-même pourvoira. Donc, Seigneur, dis-moi seulement comment je dois me comporter. À ce moment-là, Dieu voulait tout simplement mettre à l'épreuve l'obéissance d'Abraham. Dieu savait que Abraham l'aimait. Dieu savait qu'Abraham avait la foi. Il le savait. Il le savait. Et à ce moment-là, il n'avait qu'à, j'insiste bien sûr, il n'avait qu'à obéir à la voix de Dieu. Sans comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive pour sacrifier le fils de Dieu. Arrête. Maintenant, je sais, je vois que tu crains Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais là, nous disons Amen parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais pendant le trajet, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Abraham? Mais tout ce qu'il a fait, il a dit, Seigneur, je veux simplement obéir. Je veux simplement avancer la tête baissée. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Sortir de pourquoi, entrer, Seigneur, j'ai perdu tant d'années. Alors plutôt que de me lamenter sur les années que j'ai perdues, Seigneur, quelle attitude que tu veux que j'aie aujourd'hui? C'est cela que le Seigneur veut. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide vraiment à faire confiance au Seigneur. Et nous allons aussi nous repentir pour toutes les fois où nous avons cherché à demander de compte à Dieu. Peut-être que c'est vrai, on n'a pas tous eu le même départ. On n'a pas tous eu les mêmes opportunités dans la vie. Il y en a qui ont fait des études, d'autres pas. Il y en a qui passent peut-être par la maladie, d'autres pas. Et parfois, toutes ces situations peuvent nous amener à murmurer contre Dieu, à chercher, à demander des comptes à Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il n'a aucun compte à nous rendre, puisqu'il nous aime et il a montré cela à la croix. Et ce matin, le Seigneur veut aussi que nous puissions changer d'attitude, sortir de pourquoi, Seigneur, à Seigneur, quelle attitude dois-je avoir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui, Seigneur, nous encourage ce matin. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, comme il est écrit dans le Proverbe 20-24, Seigneur, que c'est toi qui diriges les pas de l'homme. Et Seigneur, nous ne comprenons pas toujours là où tu veux nous mener, Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours là où tu veux nous conduire. Certains ont connu, Seigneur, la perte d'un proche, comme ça a été le cas pour Marthe et Marie. Certains ont connu des injustices dans la vie, Seigneur. Et on pensait qu'ils étaient moins aimés, moins favorisés que d'autres, Seigneur. Certains, Seigneur, passent par la maladie chronique, Seigneur. Mais Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous puissions tout simplement nous humilier devant toi. Ne pas chercher à tout comprendre. Parce que même si nous cherchons à comprendre, nous n'allons rien résoudre, Seigneur. C'est toi qui résous nos problèmes, Seigneur. C'est toi qui agis. Même si nous nous lamentons, nous nous roulons par terre, cela ne va pas résoudre, Seigneur, notre problème. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous. À avoir foi en toi, foi en ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vois toutes ces situations qui sont comme des Goliath devant nous, Seigneur, qui semblent insurmontables. Seigneur, nous ne savons pas comment faire. Mais nous venons nous humilier, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, l'attitude à avoir. Tu veux que nous puissions croire en ta parole, comme tu l'as dit à Marthe, à Marie, tu as insisté. Tu veux que nous puissions lire ta parole. Tu veux que nous puissions méditer ta parole. Tu veux que nous puissions prier, Seigneur. Tu veux que nous puissions fléchir les genoux. Tu veux que nous puissions te louer, Seigneur. C'est vrai qu'humainement parlant, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours le cœur à chanter avec allégresse lorsque nous traversons des situations différentes. Mais à ce moment-là, notre chair nous pousse à la rébellion, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être dans la deuxième attitude. Ô Éternel. L'attitude d'humilité, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous savons, Seigneur, que les situations que tu permets dans nos vies, tu les permets, Seigneur, afin de manifester ta gloire d'une façon ou d'une autre. Peut-être que nous ne verrons pas cela, Seigneur, de notre vivant, mais nous voulons croire que tu agis, Seigneur, au travers de tous ces exemples que tu nous as donnés ce matin. La résurrection de Lazare, la mer rouge que tu as séparée en deux. Au travers de tous ces exemples, Seigneur, nous croyons qu'il y a une porte de sortie, comme ta parole le dit. Que tu ne permets pas, Seigneur, une situation, une épreuve, même une tentation, qui vienne pour nous détruire. Non ! Si tu permets cela, c'est parce que tu sais que tu nous as donné la force. Mais non seulement tu nous donnes la force de vaincre cela, mais tu es avec nous, Seigneur, pour la victoire. Mais surtout, tu nous dis, Seigneur, qu'il y a toujours la délivrance, Seigneur. Et nous voulons nous humilier et être spectateurs de la délivrance que tu accordes, Seigneur. Comme le peuple d'Israël a été spectateur de ce que tu as fait avec l'armée d'Égypte, Seigneur. Nous voulons être des spectateurs. Nous voulons prier comme David, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, sur la voie que tu veux. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour les dispositions nouvelles que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, là où il y avait l'amertume, tu mets la joie, Seigneur, véritable. Là où, Seigneur, nous étions dans le désespoir, Seigneur, ce matin, tu nous donnes l'espoir, Seigneur. Là où nous étions peut-être dans l'orgueil, la colère, tu nous rappelles ce matin que la colère de l'homme n'accomplit pas ta justice, Seigneur. Mais tu nous dis surtout, Seigneur, que tu fais grâce à ceux qui s'humilient devant toi. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. À toi la gloire, Seigneur, pour ta parole, au nom de Jésus.